pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage pour débuter cette émission avec en plateau Laurent Grassin. Bonjour Laurent.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes directeur des médias Boursorama en compagnie de Karen Laure Mérenge.
Bonjour Étienne.
Mérenge, voilà. Bon, je me disais, je suis pas sûr du nom, j'ai bien fait de confirmer avec vous. Vous êtes la fondatrice de Swave. Swave qui est une plateforme qui propose notamment des comptes à terme. Et ça tombe bien puisque on a pas mal d'actualités monétaires en ce moment avec, je le disais en préambule, la Fed ce soir, mais aussi la BCE demain. Que peut faire la BCE face à cette inflation ou en tout cas ce choc de prix à court terme, Laurent Grassin?
Il est urgent d'attendre. Je pense que ça va être le message, un petit peu le tempo de toutes les banques centrales, c'est que pour le moment, on observe ce qui se passe. Il n'y a pas de signe véritablement alarmant à date, encore une fois, je précise, sur l'économie, notamment en Europe. On le sait, la mission essentielle de la BCE, ça reste l'inflation. Elle est moins proactive que la Fed ne peut l'être. En tout cas, pour le moment, on est à 2% au niveau européen. On est entre 3,5 et 3,75 aux États-Unis. Et tout le monde s'attend à ce que ça reste identique. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, entre la volonté de justement de pouvoir contenir l'inflation, mais surtout de préserver aussi la croissance et l'emploi, voilà, on est sur cette ligne de crête. Pour le moment, elle tient. Ça va être intéressant de voir comment la situation économique évolue dans les mois prochains. Je pense que ce sera intéressant, encore une fois, d'avoir les données de croissance sur le deuxième trimestre qui vont, à mon sens, commencer à tenir compte de ce qui se passe au Moyen-Orient. Pour le moment, on tient. On tient la pause et on regarde les données.
Une pause qui devrait se confirmer demain de la part de la BCE, Karen Laure, avec peut-être de futures hausses de taux dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'anticipe le marché obligataire.
En effet, pour l'instant, le consensus a l'air de pricer, comme on dit, que demain, il n'y aura pas de hausse de taux et que finalement, la crainte inflationniste n'est pas suffisamment importante pour que Christine Lagarde augmente de 2% vers 2,25%. Pour autant, le marché a l'air d'anticiper deux hausses de taux jusqu'à la fin de l'année en 2026. Mais je pense qu'on a le temps largement de voir
comment ça va évoluer
encore différemment ces éléments. Et comme disait Laurent également, en théorie, le mandat de la Fed est d'uniquement maintenir la stabilité des prix et de veiller à la non-inflation entre guillemets ou à une inflation raisonnable. Mais en pratique, elle veille aussi évidemment au plein emploi, même si le mandat de la BCE n'est pas totalement dual comme elle l'est à la Fed. Et le fait qu'on soit sur une sorte de stagflation en perspective avec des perspectives de croissance plus faibles fait quand même qu'ils vont certainement finir par monter les taux à un moment, quoi.
En tout cas, les Français, depuis le début de l'année, on le voit bien, prennent un petit peu leur argent en main. C'est vrai que le livret A a vu son rendement baisser en début d'année. Il y a également le PEL qui est un petit peu en fin de vie, en tout cas certains PEL. Et donc, forcément, il y a de la décollecte et des Français qui placent cet argent sur d'autres actifs.
Ouais, tout à fait. On a entendu beaucoup parler du PEL récemment. Pourquoi ? Parce que c'est la toute première vague de PEL à échéance en 2026. Donc, il faut savoir qu'en 2011, les PEL qui historiquement avaient toujours eu une durée de vie illimitée, la régulation a changé en 2011 et on a considéré que les PEL allaient maintenant durer 15 ans. Donc, en 2026, on a une première vague de PEL qui arrive à échéance. Et la question qui se pose un petit peu en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de renouveler ces PEL ? Est-ce qu'on a envie de les allouer sur d'autres placements ? Et peut-être qu'en quelques mots, on peut expliquer pourquoi le PEL finalement n'est plus du tout un placement attractif comme il l'était auparavant. Donc déjà, d'un point de vue de flexibilité, c'est un placement qui est extrêmement inflexible. Il faut laisser son argent investi pendant 4 ans. Il faut vraiment faire des versements chaque année de 540 €, auquel cas, si on ne les fait pas, le placement est fermé. On a la possibilité d'en avoir que un avec un plafond de 62 000 €, etc. Donc c'est un placement très inflexible. C'est un placement qui a son rendement qui est défini par l'État français. Donc en fait, chaque année, l'État va définir un rendement qui peut être pas du tout attractif. Et l'année dernière, c'était 1,75%. Cette année, c'est 2%. Donc c'est quand même très en dessous de ce qu'on peut avoir dans le marché. Et enfin, la fiscalité du PEL, qui était très attractive, puisqu'au départ, il était complètement exonéré de fiscalité de prélèvements sociaux, ne l'est plus du tout, puisque je vous passe les dégradations de fiscalité successives, mais aujourd'hui, le PEL est parfaitement fiscalisé, aussi bien en termes d'impôts sur revenus que de prélèvements sociaux.
C'est flat tax, hein, c'est ça ?
C'est une flat tax à 31,4%. Et en parallèle de ça, en fait, l'intérêt premier du PEL, qui était d'ouvrir du droit un crédit en fait, immobilier, d'où son nom, le plan d'épargne logement. eh bien, n'est jamais utilisé parce qu'en fait, les crédits immobiliers sont beaucoup plus attractifs auprès des banques traditionnelles. Ils sont beaucoup plus compétitifs qu'avec le PEL. Donc, en gros, ce placement n'a plus aucun intérêt et il décollecte massivement.
Sauf pour les vieux PEL quand même, parce que c'est un taux qui est fixe.
Exactement.
Sauf pour les vieux PEL, parce qu'il y a une spécificité, comme on disait, c'est que le taux du PEL est figé à sa souscription pendant toute la durée du placement. Donc, tous les PEL qui ont été ouverts dans les années 80 et 90 ont des taux hyper intéressants. Moi, mes parents m'ont ouvert un PEL à ma naissance à 4,62% en 91 et ce taux est garanti jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de limite de durée. Donc ces PEL-là sont effectivement hyper intéressants, il ne faut jamais les fermer. Comme ils coûtent très cher aux banques, la banque essaye par tous les moyens de les faire fermer, mais il ne faut pas les fermer. Mais tous les PEL depuis les années 2000 sont plus du tout intéressants en réalité. Et on a d'autres alternatives, comme vous le disiez, potentiellement sur des comptes à terme, qui vont présenter toutes les mêmes caractéristiques avantageuses. Donc un capital garanti à 100% et un rangement garanti à 100% et figé dès la souscription. Donc finalement, ce qui nous a attiré auprès du PEL, mais qui ne vont pas présenter les désavantages qu'on connaît du PEL, c'est-à-dire une durée inflexible de 4 ans, une capacité à en avoir un seul, un rendement qui est fixé par l'État, etc. Puisque sur un compte à terme, on va pouvoir choisir librement sa durée de 6 mois, de 12 mois, etc. Et aujourd'hui, le marché fixe le taux du PEL à 2%, mais il faut savoir, sur des comptes à terme, sur une durée de 4 ans minimale, mais sur du compte à terme, on peut avoir du 2% à 6 mois, on peut avoir du 3% à 4 ans. Donc c'est vraiment le rendement et l'attractivité du PEL n'est plus à l'ordre du jour, quoi.
Et après, ça, c'est figé, mais c'est disponible à tout moment. Hein. L'argent du compte à terme, on peut le retirer. On n'est pas obligé de rester 2 ans ou 3 ans sur la durée définie.
Alors, il vaut mieux quand même aller jusqu'à l'échéance du placement parce qu'on profite pleinement des intérêts. Mais si on a toutefois besoin de récupérer ses fonds avant l'échéance, eh bien, on va pouvoir le retirer avec un préavis de 32 jours. Donc, c'est relativement liquide, mais pas parfaitement liquide.
En tout cas, ça montre bien qu'il y a des opportunités. Aujourd'hui, Laurent Grassin, pour trouver du rendement, que ce soit sur les comptes à terme... Voilà, sur les fonds euros. Enfin, il y a plein d'opportunités. Les opportunités sont revenues. On n'est plus dans le même scénario qu'il y a 4-5 ans.
Il y a plusieurs choses. Effectivement, le PEL, c'est quand même toute l'histoire de France des produits d'épargne. C'est-à-dire qu'on vous propose au départ un produit qui est assez attrayant, effectivement, où il y a des conditions sur le rendement, sur la capacité d'avoir un prêt qui sont vraiment bien. Et puis, comme le PEL était un trop bon produit d'épargne, les gens l'utilisaient pas assez pour le logement, donc on a dit on va le recentrer sur le logement tellement qu'on en a dégradé toutes les qualités et on se retrouve aujourd'hui avec comme ce que tu disais finalement un produit qui a plus beaucoup d'intérêt. Et en plus, ça reste malgré tout le deuxième produit d'épargne réglementé derrière le livret A. Je crois qu'il y a à peu près 200 milliards d'euros d'encours dessus en juin 2025. Alors oui, il y a aujourd'hui les comptes à terme, il y a les fonds euros qu'on retrouvait effectivement de l'attrait. Et moi, ce qui m'intéresse, je suis désolé Étienne, je vais nous ramener sur la bourse quand même. On avait les chiffres d'Amundi ce matin, vous les avez regardés. Et qu'est-ce que nous dit Amundi? C'est qu'il y a eu
collecte record.
32 milliards d'euros de collecte. Donc ça veut dire que malgré tout, sur un premier trimestre qui était volatile, qui était compliqué, il y a quand même beaucoup d'épargnants parce que il y a ça aussi qui sont allés chercher du risque, qui sont allés chercher du rendement, notamment via les ETF. C'est ce qui ressort de cette publication d'Amundi. Donc oui, il y a des possibilités sécurisées, si je puis dire. Et puis on voit que les épargnants ont moins peur aujourd'hui d'aller chercher du risque, ou en tout cas ont sans doute vu le moment qu'on est en train de vivre actuellement comme un bon point d'entrée sur les marchés.
En tout cas, la clé encore et toujours, Karen Laure Mregen, ça reste la diversification. Hein, on le voit par rapport aux ETF, on parlera tout à l'heure des CPI. Enfin, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de la collecte sur quasiment toutes les classes d'actifs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si effectivement l'horizon en fait, de renouvellement de ces PEL qui arrivent à l'échéance dont on parlait, c'est à nouveau de rester investi pendant 15 ans, puisque là on parle de PEL qui ont été... c'est 15 ans toujours.
Ah,
en fait, au bout de 10 ans, on ne peut plus faire de versement.
Ah, c'est ça. Okay.
Mais on peut le maintenir jusqu'à 15 ans. Et si l'horizon à nouveau, c'est... si votre épargne, vous considérez qu'elle peut être mobilisée pendant 15 ans, effectivement, ça vaut le coup d'aller sur des marchés risqués, comme le disait Laurent, des ETF, etc. Mais pour autant, tout est une question d'horizon de temps, en fait. Et l'avantage aussi d'un PEL ou potentiellement d'un compte à terme, c'est d'aller sur des horizons beaucoup plus courts. Et donc beaucoup moins risqué. Parce que aller sur des ETF risqués sur le marché actions, ça suppose quand même d'avoir un horizon de temps qui le permet.
C'est donc, pas pour jouer le
voilà,
truc.
C'est pas pour faire des entrées-sorties et se prendre pour un super trader. En général, ça c'est plutôt à perte. Mais oui, donc à long terme, la diversification, évidemment, c'est porteur.
À suivre donc la BCE demain, la Fed ce soir, et puis les GAFAM qui vont également publier à partir de ce soir Laurent Grassin. Beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, sur les fameux 600 milliards et plus qui avaient été annoncés au mois de février. Et puis quid également de OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui fait un petit peu l'actualité, une nouvelle fois ces dernières heures, sur est-ce qu'ils vont réussir à monétiser, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre leurs objectifs, etc.
C'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Effectivement, Étienne, il y a les trois introductions qui sont attendus d'ici la fin de l'année. On ne sait pas encore véritablement quand. Donc, on a SpaceX, on a OpenAI, on a Anthropic. Et c'est intéressant de voir, au-delà de l'histoire boursière, l'histoire qui s'écrit aussi entre tous ces hommes qui se connaissent tous, finalement, puisque le procès qui se tient en ce moment sur OpenAI, où, vous savez, Elon Musk est en train de poursuivre Sam Altman en expliquant qu'il a changé le statut de la société qui, au départ, était vue comme une fondation et puis qui s'est dotée d'une filiale à but commercial. Donc, il explique qu'il a été trompé. De l'autre, on sait que les dirigeants d'Anthropic sont des anciens d'OpenAI. Donc, tout ça est vraiment un tout petit univers. Et à côté de ça, vous l'avez dit, il y a la vraie question. Celle qu'on se pose notamment sur OpenAI. Donc, on parle quoi d'une valorisation théorique, je crois, aux alentours de 1800 milliards pour SpaceX, et on est grosso modo, à grosse maille, pardon pour les chiffres, 1000 milliards pour Anthropic et 1000 milliards pour OpenAI. Et vous l'avez dit, d'ici 4 ans, c'est 600 milliards de dollars d'investissement qui sont prévus, notamment dans la construction de centres de données, toujours avec cet objectif de la puissance de calcul. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui circulent, qui sont censés être confidentiels, mais qui sont relayés par certains médias. Et ça va être intéressant de voir, du point de vue de l'investisseur, finalement, au-delà de la hype, si je puis dire, qu'est-ce que ça rapporte. On voit déjà qu'il y a un certain nombre de virages qui ont été faits par OpenAI, qui est véritablement dans une course avec Anthropic, pour savoir qui va y aller en premier. On voit que Sora, le service de vidéos générées par IA, a été arrêté. On voit qu'il y a eu un recentrage, sur le monde de l'entreprise par rapport aux clients particuliers. On voit bien qu'aujourd'hui, chez OpenAI, l'utilisation par des particuliers, c'est pas là où on va véritablement faire de la rentabilité. Il y a aussi du recentrage vers de l'IA qui va faire du code. Donc, tout ça est en train de se structurer et l'appétit du marché pour ces introductions va nous dire un petit peu... avec les résultats, bien sûr, des Magnificent Seven qui va tomber cette semaine, où on en est sur l'appétit sur l'IA. Je répète, très courte. Aujourd'hui, ce qui marche encore sur l'IA depuis le début de l'année, c'est vraiment les spécialistes de la puce dans tous les dimensions de cet écosystème.
Les semi-conducteurs. Hein, avec un indice de Philadelphie, c'est devenu un peu l'indice de référence qui avait gagné
aujourd'hui, voilà.
45% là, entre fin mars et fin avril.
Aujourd'hui, les investisseurs semblent dire, écoutez, la fameuse vague 2, vous savez, Étienne, on passe de la vague 1, les hyperscalers, on fait la technique, et puis après, l'IA infuse comme ça, et puis va permettre à plein de sociétés de générer de la rentabilité. Bah, pour le moment, le marché dit, moi, je reste sur la phase 1, et même ceux qui produisent les puces, parce que eux, je sais qu'ils ont leur carnet de commandes qui sont bien remplis.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin pour débriefer ces actualités que l'on suivra bien sûr dans nos médias respectifs. Laurent Grassin, donc directeur des médias de Boursorama, et Karen-Laure Mregen pour Swave.